You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Et avec nous, comme tous les samedis, Elodie Largenton, notre correspondante dans le Pacifique, pour nous parler de l'actualité de la semaine dans cette région. Elodie, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, en Nouvelle-Calédonie, les partisans du maintien du territoire dans la France ont conservé de peu la majorité au Congrès.
Les élections provinciales ont eu lieu dimanche dernier, un scrutin crucial qui ouvre l'ultime mandat découlant de l'accord de Nouméa. Les nouveaux élus auront la lourde responsabilité d'échafauder avec Paris un nouveau statut pour la Calédonie. Et 6 mois après le rejet de l'indépendance par référendum, c'est donc encore la droite non-indépendantiste qui l'emporte de peu. Elle a obtenu 28 élus sur 54. Les indépendantistes, eux, obtiennent 26 sièges. Alors dans le détail, il faut d'abord souligner l'importance de l'abstention. Un tiers des électeurs ne se sont pas déplacés dans les bureaux de vote. Le résultat est marqué par un net retournement à droite. Calédonie Ensemble, parti de droite modérée qui dirigeait jusque-là la province sud et le gouvernement, le parti s'effondre au profit de son rival L'Avenir en Confiance, une liste qui réunissait 3 partis proches des Républicains. La surprise du scrutin est wallisienne et futunienne. Dans la province sud, l'Éveil océanien, une liste communautaire des Wallisiens et Futuniens, fait une entrée remarquée dans le paysage politique en décrochant 4 élus. Le parti est pourtant né il y a seulement quelques semaines. Côté indépendantiste maintenant, les provinces du Nord et des îles Loyautés restent entre les mains des deux poids lourds du FLNKS, à savoir l'UNI, l'Union Nationale pour l'Indépendance, et l'UC, l'Union Calédonienne. Pour les indépendantistes, il s'agit maintenant d'aller jusqu'au bout du texte de l'accord de Nouméa, c'est-à-dire jusqu'à l'organisation d'un deuxième et éventuellement d'un troisième référendum d'autodétermination en 2020 et 2022. Et à ce propos, la mouvance Les Républicains veut organiser au plus vite ses prochains référendums en espérant améliorer le score des pro-français et discuter ensuite avec fermeté, disent-ils, avec le FLNKS. Encore un mot de politique avec l'enquête qui se poursuit sur les soupçons d'emploi fictif concernant le parti Calédonie Ensemble, grand perdant des provinciales. Plusieurs personnes ont été interrogées mercredi en audition libre. Comme le rappelle la première, cette procédure se déroule dans le cadre d'une information judiciaire confiée à 2 juges d'instruction.
Et en Polynésie française, les fonds marins intéressent les exploitants miniers, mais les chercheurs du Musée national d'histoire naturelle appellent les autorités politiques à la vigilance.
C'est un article du journal La Croix qui s'en fait l'écho. Les biologistes et écologues marins du Muséum national d'histoire naturelle ont mené 3 campagnes océanographiques entre 1998 et 2009. Les chercheurs ont exploré la faune profonde en Polynésie française et cette source unique de données permet d'établir une liste de 471 espèces, dont 169 nouvellement décrites, notamment des mollusques et des crustacés. Dans la zone où se sont déroulées les missions, c'est-à-dire près des îles Marquises, des îles de la Société et des Tuamotu, ainsi qu'au large de l'archipel des Australes, il existe une diversité d'espèces parfois très particulières, mais pas d'abondance, le milieu n'étant pas très riche en nutriments, il y a peu à manger. Une chercheuse interrogée par La Croix parle de déserts océanographiques avec des sommets recouverts d'encroûtements polymétalliques, riches notamment en nickel. Et c'est évidemment ce qui intéresse les entreprises minières. Et leur argument, c'est de souligner que vu la faible biodiversité apparente, le gouvernement aurait tout intérêt à signer une autorisation d'exploitation. Sauf que les biologistes alertent sur les risques pour la biodiversité. Toute exploitation minière a des conséquences sur l'environnement, d'autant que dans les zones qui intéressent les entreprises, les animaux récoltés sont souvent de petite taille, ce qui suggère qu'ils sont fragiles face aux perturbations anthropiques. Le Muséum national d'histoire naturelle alerte donc les autorités françaises et polynésiennes. Il consacre aussi en ce moment une grande exposition à l'océan, dont une partie revient justement sur ces enjeux des exploitations minières des fonds marins. Exposition à voir à Paris, si vous passez par là, ça vaut vraiment le coup. Et on reste dans ce domaine de la santé de notre océan avec une pollution au large de l'île de Tahiti. Une nappe graisseuse a été observée par 2 avions commerciaux. Elle proviendrait d'un navire chinois. Son capitaine nie avoir volontairement dégazé. Les gendarmes ont été chargés de prélever des échantillons de ce qui flotte encore dans l'eau pour savoir s'il s'agit d'une pollution, d'hydrocarbures ou bien seulement de particules organiques. Une bonne nouvelle tout de même dans ce chapitre environnemental avec cette découverte des scientifiques de l'expédition Under the Pole dans l'archipel des Gambiers en Polynésie. Ils ont trouvé une espèce de corail vivant à 173 mètres de profondeur. Ces coraux pourraient être utilisés pour restaurer les récifs selon les scientifiques de l'expédition. Voilà un peu d'espoir devant la menace que font peser les pollutions et l'acidification des océans sur les coraux des lagons.
Et autre information, de députés de Nouvelle-Calédonie demandent qu'une commission permanente dédiée aux Outre-mer soit créée à l'Assemblée nationale.
Alors le but, c'est de mieux prendre en compte les spécificités de ces territoires dans le cadre de la révision du règlement de l'Assemblée qui a commencé à être examiné cette semaine. Les députés calédoniens Philippe Gomez et Philippe Dunoyer, qui siègent avec l'UDI, saluent la création en 2012 d'une délégation aux Outre-mer à l'Assemblée nationale. Ça a constitué selon eux une avancée pour une meilleure prise en compte des réalités ultramarines dans les travaux législatifs. Mais ils regrettent qu'elle ne dispose pas à ce jour de moyens et de pouvoirs comparables à ceux des commissions permanentes. Elle ne peut pas, par exemple, amender les textes soumis au Parlement. La réforme du règlement de l'Assemblée nationale est donc examinée en ce moment pour une entrée en vigueur prévue en septembre prochain. Un mot de Wallis et Futuna où l'on mise sur la télémédecine pour mieux traiter le cancer. Selon la première, 35 nouveaux cas de cancer sont découverts chaque année dans l'archipel. C'est la deuxième cause de mortalité au plan local. Le traitement se déroule la plupart du temps hors du territoire. Un nouveau partenariat signé avec la Nouvelle-Calédonie et la ville française de Rennes devrait permettre un meilleur traitement à distance grâce donc à la télémédecine. Il y aura ainsi plus d'échanges à distance avec des experts et des spécialistes. Wallis et Futuna, la première, précise que pour préparer ce projet, une mission de spécialistes en oncologie était sur le territoire ces deux dernières semaines. Et puis le sport, le football avec Yengen qui devient le premier club calédonien a remporté la Ligue des champions d'Océanie. C'est historique. En finale, Yengen a battu un autre club calédonien, l'AS Magenta, 1-0. Une grande fierté pour le football calédonien. Généralement, ce sont les clubs néo-zélandais qui remportent cette compétition régionale. Grâce à sa victoire, Yengen représentera l'Océanie à la prochaine Coupe du Monde des clubs, un tournoi annuel réunissant les champions des 6 confédérations de la FIFA. Le tournoi devrait avoir lieu en décembre. On ne connaît pas encore le pays organisateur, mais la FIFA a assuré que la Coupe du Monde des clubs aurait bien lieu.
Elodie, merci. On se retrouve donc la semaine prochaine.
Merci et à la semaine prochaine.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.